des polars et des notes.
Amis du polar, bonjour, aficionados du roman noir et du thriller, salut et bienvenue sur Radio Évasion pour notre rendez-vous mensuel. J'ai nommé des polars et des notes 101e du genre. Voyage, voyage, pandémie, oppression, meurtre et toutes ces sortes de choses au programme, 3 continents à visiter, un beau troupeau de salopards à débusquer et de croustillantes intrigues à nous mettre sous la dent. Toutes les références des romans évoqués seront à retrouver, comme d'habitude, sur le blog le429.fr, en minuscules et tout attaché. Inutile donc de vous affoler si vous n'avez pas eu le temps de prendre des notes. Pierre-Yves reste et demeure inamovible à la technique. Le soleil brille sur la Bretagne. Que rêver de mieux ? Eh ben, que rêver de mieux? Un petit voyage en Chine, par exemple, avec Amour, meurtre et pandémie de Xu Xiaolong, qui est paru aux éditions Liana Levy et traduit de l'anglais États-Unis par Françoise Bouillot. Et donc, expédition en Chine à Wuhan. Plus précisément, alors que l'épidémie de Covid a commencé ses ravages et que la politique absurde du zéro Covid de Xi Jinping n'arrange pas les choses, c'est le moins que l'on puisse dire. Chen Kao, le flic fétiche de Xu Xiaolong, ne fait plus partie des effectifs de la police suite à sa précédente enquête. Il devrait occuper officiellement un placard administratif, un poste de directeur honoraire de la réforme du système judiciaire, un truc qui sert à rien. Donc. Il a fâché du monde dans les hautes sphères et se trouve mis d'office en convalescence d'une maladie imaginaire. La prochaine étape pourrait être sa disparition pure et simple, comme nombre de ses compatriotes. Pourtant, où représentant du gouvernement n'a d'autre choix que de le recruter pour mener des investigations sur 3 meurtres successifs qui viennent d'être commis aux abords de l'hôpital Renji. Une infirmière, un cadre du service de la propagande et un chirurgien cardiaque ont été assassinés et le centre hospitalier croule sous les demandes de soins de patients qu'il ne peut recevoir. Ceci devait justifier d'un test négatif de moins de 24 heures qu'il est absolument impossible d'avoir. Chen et Jin, sa secrétaire, un peu plus que secrétaire d'ailleurs, vont devoir se débattre dans une dictature étouffante, meurtrière, paranoïaque, dans laquelle la bureaucratie et l'autoritarisme ne souffrent aucune remise en cause. La politique sanitaire y cause encore plus de dégâts que la maladie elle-même. La seule réponse aux récriminations étant une répression accrue et bien entendu, aucune information ne doit filtrer. Tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. La Chine a triomphé du virus, c'est ce qu'on annonce dans les médias, tandis que les Occidentaux, eux, sont au plus mal. C'est un roman policier de haut vol, mais aussi un quasi-documentaire sans concession. Ce formidable polar nous entraîne au cœur d'une tyrannie ahurissante, sans oublier toutefois de parler de poésie, de gastronomie et d'amour. On ne refera plus Chen Kao désormais, il est trop vieux pour changer, et c'est très bien comme cela. Un des meilleurs romans de l'auteur, si ce n'est le meilleur, et le plus pessimiste sans aucun doute, avec Chine retient son souffle, un de ses précédents, toujours chez Liana Levy. Et on va s'écouter Ben Harper, Oppression.
Oh, oppression, you prey on us when we sleep. Oppression, you chase after the tired, the poor, the weak. Oppression, you know you mean only harm. Oppression, you reach out with your long arm. But oppression, I won't let you near me. Ah, no. Oppression, you shall learn to fear me. Yes, you will. Oppression, you seek population control. Oppression, oppression. I swear that hatred is your home oppression. You just won't leave bad enough alone. But oppression, I won't let you near me. Oh no, oppression, you shall learn to fear me, yes you will. Oppression, I don't see how you sleep. Oppression, for your bleeding conscience I weep. Oppression, you may have the dollar on your side, but oppression from the gospel truth you cannot hide. And oppression, I won't let you near me. Oh no, oppression, you shall learn to fear me, yes you will. Oppression, I won't let you near me.
En Belgique maintenant, on part en Belgique avec le livre de Daniel de Chris de Stoop qui est paru aux éditions Globe. Alors Chris de Stoop, c'est un journaliste et ce qu'il nous raconte dans ce livre de Daniel n'est en rien une fiction mais bien un fait divers absolument sordide réellement arrivé à son oncle. L'oncle en question se nomme Daniel Marois, héritier d'une ferme familiale périclitant dans le Hainaut, non loin du village de Saint-Léger. Daniel est un vieux célibataire de 84 ans, travailleur, honnête, droit, même s'il a connu son lot de souffrances comme chaque être humain. Il survit avec ses 4 vaches de race blanc-bleu et ce que rapporte son petit potager. Alors il se méfie des banques, on se demande bien pourquoi, et subit quelques ennuis régulièrement d'une bande de jeunes qui ont été jusqu'à s'introduire chez lui. Il a bien porté plainte, mais la gendarmerie n'a pas jugé très utile d'enquêter. C'est un vieil original et un type comme Daniel ne mérite pas la sueur des flics. Sa vie est réglée au millimètre. Chaque samedi à 18h, il se rend au supermarché pour acheter un steak de blanc-bleu d'un centimètre d'épaisseur, quelques endives, un paquet de frites surgelées et un pack de Rodenbach, la bibine locale. Et chaque samedi, pour payer, il sort de sa poche une liasse de billets qui attire le regard de Raphaël, le stagiaire boucher, qui en parle à ses copains de la bande d'Evrigny, une douzaine de jeunes entre 17 et 20 ans, héritiers de rien, même pas d'une humanité élémentaire. La suite, vous la devinez, mais non, même pas, elle est absolument inconcevable, sordide, obscène. Le vol, oui, évidemment, les coups aussi. Et puis, filmer ce genre d'ignominie pour le diffuser sur le net demande une sacrée dose de bêtises associée à la barbarie. Ce document vous laisse sans voix, abasourdi par le manque d'empathie, l'inconscience, les méfaits d'une société dans laquelle on ne peut pas vivre sans un iPhone dernière génération ou une moto à rodéo pour emmerder les voisins. Chris de Stoop relate avec brio, minute par minute, à la fois le calvaire de Daniel, surnommé le vieux crasseux pour mieux pouvoir le réduire à l'état animal, et cette espèce de frénésie sauvage qui s'est emparée de certains membres de la bande. Encore une formidable parution des éditions Globe, le choc de deux parties de la société, un monde de violence ordinaire et de consommation frénétique d'un côté, un quotidien immuable et frugal de l'autre. pas de musique dans le bouquin, mais comme un des chapitres s'appelle Cut the Crap, j'ai choisi un titre tiré de l'album des Clash qui s'appelle Cut the Crap. Et ce titre, c'est Life is Wild. Après la mafia du tabac, Marin Ledin s'attaque dans Free Queens à un deuxième produit de première nécessité, la bière. Mais également et surtout aux filières mafieuses, au néocolonialisme qui pille l'Afrique, ici le Nigeria, et aux premières victimes de ces pratiques, les femmes et les enfants. Elles sont des milliers en Europe, des milliers de jeunes femmes, jeunes filles nigériennes contraintes à la prostitution sur les trottoirs européens, et bien plus nombreuses encore dans leur propre pays, livrées à la rapacité des multinationales. Free Queens, c'est un nouveau brûlot sur les pratiques ignobles du capitalisme, mais avant tout un extraordinaire roman noir. Bonjour Marin, merci d'avoir une fois de plus répondu présent à mon invitation.
Bonjour Patrick, merci pour ton invitation.
Alors Free Queens, qui est quand même un roman très très sombre, s'ouvre sur une bouffée d'espoir, la mini-révolte d'une gamine de 15 ans, et qui laisse penser qu'une lutte demeure possible. Qui est-elle, cette enfant ?
Le roman démarre avec Jasmine Doyoum, qui est une jeune Nigériane immigrée... Il y a des réseaux de passeurs un peu malgré elle en Europe et en particulier en France, où elle va découvrir qu'elle a été envoyée en Europe pour servir des réseaux de prostitution, pour servir les intérêts de proxénètes nigérians en l'occurrence. Cette jeune femme, une adolescente, hein, dans le roman, elle a pas tout à fait 15 ans, va tout de suite chercher à, dès le départ, elle va chercher à s'échapper et à fuir, et elle va rencontrer Serena Monnier, donc, qui est l'une des protagonistes du roman, une journaliste qui travaille pour Le Monde et Le Guardian.
Et Serena, justement, elle réussit, elle décide de pas laisser la lutte s'enfoncer ici, et elle décide d'aller à la source, c'est-à-dire de partir au Nigeria, rencontrer des gens d'une association qui s'appelle Free Queens of Nigeria, une association de femmes. Et on parle tout de suite du Nigeria, il y a un antagonisme entre le Nord et Kaduna, qui est un lieu complètement oublié des hommes, et Lagos qui est une ville monde, hein. Par exemple, tu parles du bidonville de Makoko qui a 300 000 habitants, c'est complètement démentiel, et c'est un pays qui semble complètement livré à lui-même.
La particularité du Nigeria d'abord, alors on est en Afrique anglophone. Nigeria c'est un quart de la population africaine, c'est 220 millions d'habitants, c'est un pays démesuré à tout point de vue, c'est un pays à la fois extrêmement riche, génère énormément de richesses chez les Nigérians, chez certains Nigérians, et à la fois une extrême pauvreté. Et Serena, elle va arriver au Nigeria par le sud, par Lagos, qui est donc le poumon économique, la capitale économique. C'est pas la capitale du pays, hein, la capitale c'est Abuja, mais elle arrive là dans cette ville tentaculaire qui fait plus de 20 millions d'habitants, avec l'idée de retracer modestement, parce qu'elle part pas pour lutter contre les réseaux de proxénétisme, elle part pour accompagner son reportage sur l'histoire d'Yasmine Doyou, mais pour retrouver les traces de sa famille, des contacts qui ont fait que à un moment donné elle est arrivée en Europe.
Justement, ouais, et on s'aperçoit très vite, Serena va vite comprendre que là-bas les jeunes filles sont poussées par leur famille, et d'une à migrer et deux à se prostituer. Parce que c'est un peu ce que nous disait Cléa Jacques-Raverty, c'est les femmes sont des commodités. C'est-à-dire que c'est un des seuls moyens de gagner de l'argent pour les gens très très pauvres.
C'est un moyen parmi tant d'autres. Il y a toujours ce mirage européen. C'est-à-dire quand tu sais que dans ton propre pays, tu n'as pas la possibilité de réussir, même si encore une fois le Nigeria, qui est un pays à la fois très pauvre et à la fois ultra moderne, avec... un ascenseur social, une explosion de couches moyennes, etc., pour une certaine catégorie de population, en particulier dans certains états du sud et du sud-est, à Benin City, autour de Lagos, les ethnies Igbo, l'un des moyens est d'essayer de passer via les réseaux en Libye, etc., d'essayer de passer en Europe, et pour les femmes, soit via des réseaux de passeurs qu'elles connaissent, et certaines y vont en sachant ce qui les attend, mais une grande partie ne le savent pas. Elles vont en Europe parce qu'elles pensent qu'elles vont trouver du travail, qu'elles vont pouvoir faire une formation, comme je l'explique dans le roman.
Il y a plusieurs histoires, plusieurs intrigues qui s'entrecroisent dans Free Queens, et il y a un nombre de personnages incroyables, c'est vraiment formidable, c'est impossible à lâcher. Et il y a un personnage que j'aime beaucoup, moi, qui c'est Oni Godje, j'espère qu'on dit comme ça, qui était un flic d'élite, et qui a demandé sa mutation parce qu'il supporte plus la corruption. C'est un type qui est hyper droit. Et qui va tout risquer pour pouvoir mettre un nom sur les cadavres de deux jeunes prostituées découvertes dans une décharge.
Ce personnage-là, je l'ai construit en binôme avec un autre personnage de flic qui s'appelle Ira Gowon. Et au départ, quand j'ai commencé à écrire, à jeter un peu les premières lignes du roman, c'était un seul et même personnage. Et puis rapidement, il a fallu que je les sépare. Il me fallait deux personnages qui racontent le Nigeria du Nord, donc qui est un Nigeria plutôt musulman, qui est un Nigeria plutôt délaissé, qui vit des situations très complexes de misère, de famine, de sécheresse, également juste à la frontière de toute une zone qui est contrôlée par Boko Haram avec des attentats, etc. Et je voulais raconter à la fois la corruption de l'intérieur, par le personnage d'Ira Gowon, donc qui est un flic de la SARS, police qui s'occupe des réseaux criminels, qui a été dissoute en octobre 2020, et en même temps qui nous raconte aussi la vie des petits Nigérians de l'intérieur. Et donc Oni Godje, c'est vraiment quelqu'un qui va me servir à décrire tout ce qu'on va trouver sur le bord de la route de la bière, qui va nous parler des paysages, qui va nous parler d'une culture, qui va nous parler d'une lassitude, qui va nous parler de toutes les conséquences finalement de la corruption, alors que Ira Gowan, lui, va nous raconter la corruption de l'intérieur.
Il y a des gens qui sont en dehors de toute loi au Nigeria, et ce sont les multinationales qui sont représentées par un personnage qui s'appelle Peter Dirksen et qui représente qui vend la First, c'est-à-dire la bière qui est pas très très difficile à trouver quelle est-elle en réalité. Et lui, il a absolument tous les droits. Il règne sur le patin.
Alors, c'est compliqué le Nigeria parce que encore une fois, on n'est pas comme en Afrique francophone où la corruption est quelque chose qui est vraiment téléguidé et organisé, y compris par les anciennes puissances coloniales. La particularité du Nigeria, c'est que c'est à la fois des entreprises extérieures, comme ça peut être le cas de cette entreprise MB que je décris dans le roman, qui est une entreprise hollandaise dans le roman.
Et en même temps, qui
fonctionne main dans la main avec les élites économiques et les élites politiques du Nigeria. Dans MB, je suppose que tu as remarqué que la plupart des postes à responsabilité, directeurs régionaux, directeurs au niveau national, sont des postes qui sont tenus par des Nigérians, ce qui n'est pas forcément le cas dans d'autres pays d'Afrique plutôt francophone, par exemple. Et Peter Dirksen, c'est un peu le porte-voix de la modernité ultralibérale européenne. Il est embauché par cette entreprise pour une durée limitée pour mettre en place des méthodes qui consistent à gagner des parts de marché sur un territoire où les marges pour ce type d'entreprise-là sont vraiment colossales. Il faut voir que la main-d'œuvre coûte pas cher, que les matières premières coûtent pas cher, que les en termes de chiffre d'affaires, en termes de marge sur la vente. J'ai oublié de préciser que cette bière est considérée comme une bière de luxe. Elle est vendue comme une bière de luxe. Donc c'est une bière qui est relativement chère, y compris pour les Nigérians, y compris pour ceux qui peuvent avoir un peu de moyens au Nigeria. Et donc c'est quelque chose qui est extrêmement juteux, quoi, extrêmement rentable.
Mais on retrouve exactement un peu de choses près. C'est vrai que ce sont les mêmes démarches de le lobby du tabac qui embauchait des jeunes filles et qui les prostituait, bien sûr, sur les événements sportifs, la Formule 1, la moto, etc. Et là, on retrouve les policiers corrompus qui recrutent des prostituées pour Dirksen, pour des événements où le slogan c'est la first, le sexe et le fric. C'est des mondes qui sont très très proches. Il n'y a pas 36 solutions non plus pour faire de l'argent, quoi.
C'est-à-dire que ce sont des méthodes, en fait, ce sont des méthodes managériales et la particularité de la façon dont elles sont appliquées dans des pays comme le Nigeria, c'est que il n'y a pas les limites légales, il n'y a pas les limites éthiques, il n'y a pas les droits de l'homme, il n'y a pas la loi Evin comme il y a en Europe. Donc il n'y a absolument aucune limite. Ou quasiment aucune limite, non celle que les Nigérians se posent eux-mêmes en termes de publicité, en termes de marketing, en termes d'agressivité commerciale, ce qui fait que des choses qui vont être plutôt passées sous silence ou qui vont être contournées ou qui vont se faire différemment sur les territoires européens, là-bas elles vont se faire sans aucune limite, quoi. Donc c'est vraiment la particularité de ce territoire-là, et notamment en matière de publicité. Il y a énormément de publicité hyper agressive, que ce soit sur les bords des routes, sur les panneaux, à la télévision, mais aussi en termes de lobbying, de placement de produits, dans les films. Le Nigeria, c'est la deuxième puissance cinématographique au monde, devant Hollywood et derrière Bollywood. Donc il y a énormément de films qui sont... Ils ne trouvent pas des financements au CNC comme en France, si vous voulez. Hein. Donc, ce sont des organismes privés qui soutiennent un certain nombre de films. Et ces multinationales-là soutiennent également des films qui vont mettre en avant leurs produits. Donc, il y a aussi ça, avec cette idée derrière que la bière rend viril, la bière, c'est bon pour les hommes. Consommez-en et vous serez des cadors et voilà, quoi.
Et Serena donc commence son Serena Monnier, aidée par les jeunes femmes qui s'occupent de Free Queens of Nigeria, commence son enquête et se rend compte de choses extraordinaires. Il y a par exemple un phénomène qui s'appelle le juju et qui est particulier et qui empêche les jeunes filles de se de se révolter.
Oui, alors moi j'ai pas beaucoup travaillé là-dessus. Jojo, c'est une espèce de rite. C'est, encore une fois, le Nigeria, c'est très chrétien au sud, très musulman au nord, mais c'est aussi plein de
d'animisme.
Ouais, voilà. Et donc il y a énormément de rituels comme ça qui sont très culturels et qui visent à consolider, on va dire, à stabiliser, à rendre acceptable, on va dire, des processus. Là, en l'occurrence, on parle de traite. C'est vraiment de la traite des femmes. Et tout ça, c'est pour rendre acceptable, faire accepter par les familles.
Il y a une phrase qui est terrible de Serena dans le bouquin qui dit « Les flics nigérians violent et tuent des femmes. Voilà un fait. L'État, les autorités, les religions et même les familles de ces femmes les couvrent. En voilà un autre. »
L'un des points de départ du bouquin, c'est pendant l'été 2020, alors que nous, on était entre deux confinements, ben voilà, tout le monde se souvient de contexte, où on était relativement amorphe, où il y avait une espèce de fatalisme, de stress et d'angoisse aussi pour beaucoup de gens au niveau européen. Pendant ce temps-là, il y a un mouvement social qui s'appelle End SARS, c'est-à-dire la fin de la SARS, qui est cette police criminelle qui était censé lutter contre des groupes criminels au Nigeria, avait été accusé à raison, sous prétexte de lutter contre des réseaux criminels, d'arrêter arbitrairement, de tabasser, de violer et aussi d'assassiner des jeunes femmes suspectées d'être des prostituées ou simplement parce qu'elles étaient étudiantes et qu'elles avaient protesté. Et suite à un certain nombre d'exactions comme ça, il y a un mouvement social sur les réseaux sociaux, et notamment Twitter, qui a pris une importance énorme, avec le hashtag #EndSARS, qui a fait descendre dans la rue jusqu'en octobre 2020 des dizaines de milliers de jeunes Nigérians, Nigérianes, qui étaient souvent des gens, c'était des étudiants, c'était pas forcément un mouvement ultra, ultra populaire, il était soutenu, y compris par des groupes de musique, par des stars, etc., avec un écho international, notamment dans la communauté afro-américaine, autour de personnalités comme Beyoncé ou comme Rihanna, etc. Ce mouvement-là a réussi à obtenir du gouvernement nigérian qui flippait la dissolution en fait de cette police, mais ce mouvement-là a été réprimé dans la violence. Il y a eu un certain nombre de morts au péage de Lekki début octobre 2020. Et donc tout ça, le roman était à la fois une fiction et à la fois basé sur des faits réels, quoi. Donc il y a vraiment ça, quoi. C'est-à-dire que il y a une espèce de fatalité autour de ces questions-là, qui est assez dramatique.
En lisant le roman, à aucun moment on se dit c'est pas possible. C'est tellement l'enchaînement est tellement logique que effectivement ça paraît évident que c'est hyper documenté. Et le point d'orgue, c'est l'arrivée du Covid. Et ce que tu décris très bien, c'est que le Covid qui entraîne en fait un confinement avec des gens qui ne survivent qu'au jour le jour, ils sont obligés de sortir tous les matins pour chercher de la bouffe. Ça n'a aucun sens dans un pays où il y a 400 000 personnes qui ont la tuberculose, des centaines de milliers de morts par le paludisme, etc. Le Covid, pour eux, c'est rien.
Ouais, alors ce qui était vraiment surprenant au moment où justement je me documentais pendant cet été 2020 sur ce mouvement social qui arrivait donc juste après le gros confinement qu'il y a eu en mai 2020 au Nigeria, qui avait été décidé par le président, alors qu'il n'était pas un confinement généralisé. Là, j'ai pris quelques libertés avec mon roman dans la fiction. J'ai étendu le confinement jusqu'au nord du Nigeria, mais en réalité, le confinement, il a concerné surtout Lagos et Abuja, la capitale. Et ce qui était vraiment surprenant, c'était le décalage qu'il y avait entre un mouvement porteur d'espoir en pleine pandémie mondiale, alors que tout le monde est tétanisé et que tout le monde est en train de penser au quoi qu'il en coûte et à nos petites économies et aux choses qu'on est en train de vivre, même s'il y a aussi eu des drames évidemment autour du Covid, hein. Du point de vue du Nigeria, c'était quasiment un non-événement. Ça en était un parce qu'il était relayé dans les médias, sur les réseaux, etc. Parce qu'il a été violent au moment où il y a eu un confinement en mai 2020, mais sinon il y avait une espèce de d'espoir, de rage, de faire changer les choses. Et d'ailleurs, c'est pour ça que ce mouvement a été fortement réprimé, hein. C'est parce qu'il commençait à dépasser sérieusement les simples revendications du départ et il devenait un mouvement général, quoi.
Ouais, disons que le Covid, là-bas, c'était plus un événement médiatique qu'un événement sanitaire.
Bah, ça en était un, forcément, mais c'est un pays qui est frappé par bien d'autres maladies, à commencer par le sida, le paludisme, la tuberculose. Donc, forcément, le Covid, c'est jamais qu'une grippe de plus, quoi. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu énormément de morts avec le Covid, mais de toute façon, il n'y a pas forcément les infrastructures ni les moyens. Ils ont reçu des vaccins hyper tard. Évidemment, l'Afrique a été traitée comme de la merde. Et ils ont reçu tout ça bien plus tard. Et puis surtout, de toute façon, il n'y a pas les infrastructures ni pour gérer les malades, ni même simplement pour les comptabiliser. Enfin bon, voilà, c'est la répétition éternelle de choses qui existent déjà depuis des décennies avec d'autres maladies.
Ah ben, sur cette note d'espoir et d'optimisme, il faut bien le dire, le bouquin est assez pessimiste, hein, et puis bah, à le lire, on n'a pas non plus beaucoup de raisons d'espérer. Je te remercie beaucoup, Marin. Avant de parler d'Afrique, avant de dire quoi que ce soit sur l'Afrique, faut absolument lire Free Queens de Marin Ledin, qui est paru aux éditions Gallimard dans la collection La Série Noire. Et puis on va s'écouter un titre qui est présent dans le roman, c'est Whiskied. Et j'ai trouvé une chanson qui s'appelle Money and Love, et ça me semblait bien correspondre. Merci beaucoup, Marin.
Merci.
À bientôt, au revoir.
À bientôt.
Nobody like me, body like me. Baby, when I pull up Gucci, all in my jeans. Big lollipop, baby, lick like ice cream. Big bad ways, Mr. Shift your panties. Fuck you to Bujo Banting or Bujo Benzing. Girl, any record, girl, I go make you sing. Nail she the prayer for the cocoa my sing. I got the holy water, baby, make it come swing. My pocket full of money, yo. My heart is full of loving, yo. Whoa, whoa. Nobody better for the dancer, no. Fine lady, she the bounce along. Skin tight for your body, yo. What you the one I even want, I know. Don't stop, make you drive me, yo. What you the one I even want, take go. Now by me, yo, blow me, yo. Bunda split to your room, me, yo. Wallow me, yo, brag about me, yo. Catch up back, wasum be, yo. Chasum bow, I'm a chubau. Touch me, I touch, I see deal. We are some me, so can lo leo. Chop me, I chop, I not see you. I'm with the fly and I'm on by yo. With the lady all you want, say now one time. Show a lot Dubai. Jota ba delisha ma juba. I dey feel fine, make me feel nice. Bust too short for this one night. My pocket full of money, yo. My heart is full of loving, yo. Whoa, whoa. Nobody better for the dancer, no. Fine lady, she dey bounce along. Skin tight for your body, yo. What you dey want, I in my want, I know. Stop, make you drive me on. What you did on, I even want to go. Now by me, yo, blow me, yo. Bunda split to your room, me, yo. Wallow me, yo, brag about me, yo. Catch up back, wasum be, yo. Chasum bow, I'm a chubau. Touch me, I touch, I see deal. We are some me, so can lo leo. Chop me, I chop, I not see you. They cannot touch it, make me feel I don't fool.
changement de paradigme avec le mal est fait. Le mal, M-A, accent circonflexe, L-E, qui est de Anne Dequoy et qui est paru aux éditions Les Arènes dans la collection Equinox. Dans ce roman, ce sont les hommes qui sont victimes. Le premier à Paris, étranglé à l'aide d'une cordelette. Autre signe particulier sur la scène de crime, on n'y retrouve ni le téléphone, ni le slip du cadavre. C'est un flic au nom de Frick, Sterling, qui s'y colle. Policier dont nous avions fait connaissance, dont le chat qui ne pouvait pas tourner, paru également chez Equinox l'an dernier. Deux autres assassinats aux troublantes absences de sous-vêtements et de portables identiques se produisent bientôt, l'un à Toulon, l'autre à Évry. Sterling est chargé des trois affaires, sa conviction est faite, même si les modes opératoires sont très différents et même si son équipe ne le suit pas dans ses déductions, il est persuadé d'avoir affaire à une ou des femmes qui se vengent des comportements violents des trois mâles oxy. Certes, le mal est tiré du côté de la comédie, l'écriture est souvent légère, pleine d'humour et d'ironie, mais le côté sérieux et les dégâts occasionnés par les violences faites aux femmes sont pris très au sérieux. Anne Dequoy travaille ses personnages tant féminins que masculins aux petits oignons. Elle évite avec beaucoup d'habileté la dualité du camp du bien contre le camp du mal. Ces femmes ne sont pas exemptes de tout reproche et ces hommes ne sont pas tous des salauds. Ce qui ne gâche rien, elle sait parfaitement doser suspense et rebondissement dans un très joli style. Me Too a commencé à modifier la donne, du moins dans certains pays. La peur change parfois de camp. Un roman pour se remonter le moral après avoir lu Free Queens. Et on s'écoute Violent Femme, Kiss Off.
Person to talk to, someone who cared to love. Could it be you? Could it be you? Situation gets rough, then I start to panic. It's not enough. It's just the habit, a kid, you're sick. Well, darling, this is it. You can all just kiss off into the air. Behind my back, I can see them stare. They'll hurt me bad, but I won't mind. They'll hurt me bad, they do it all the time.
Yeah, yeah.
Yeah, they do it all the time.
Yeah, yeah.
They do it all the time.
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 I hope you know that this will go down on your permanent record. Oh yeah? Well, don't get so distressed. Did I happen to mention that I'm impressed? Cause you left me, and two, two, two for my family, and three, three, three for my heartache, and four, four, four for my headaches, and five, five, five for my lonely, and six, six, six for my sorrow, and seven, seven for no tomorrow, and eight, eight, I forget what eight was for, but nine, nine, nine for lost God, ten, ten, ten. You can all just kiss off into the air. Behind my back, I can see them stare. They'll hurt me bad, but I won't mind. They'll hurt me bad, they do it all the time.
Yeah, yeah.
Yeah, they do it all the time.
Yeah, yeah.
Yeah, they do it all the time.
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 On se rencontre, on se plaît, on s'aime un peu, beaucoup, passionnellement, et paf, une dispute qui tourne mal, un mot entraîne une gifle, qui entraîne un coup, qui laisse sur le carreau un corps effacé. Et laisse au gifleur un tout petit garçon, un bébé qui va grandir sans mère. Il faut croire au printemps, le nouveau et beau roman de Marc Widmann qui est paru aux éditions Joël Losfeld, débute 10 ans après ces faits et il débute par une nouvelle incroyable. Bonjour Marc.
Bonjour, monsieur Patrick Carlagnotti.
Alors, tout commence à être tas dans une atmosphère de tragédie. Et c'est pour mieux amener le redout des sentiments que ça débute de façon aussi noire?
Vous me prêtez des attentions que je n'ai pas forcément. Pour une raison simple, c'est que de manière générale, quand je me lance dans l'écriture d'un livre, je n'ai aucune idée d'où je vais. Et donc, en fait, ça s'impose plutôt à moi. Et ce qui s'imposait à moi, là, c'était... tout d'abord, en effet, la côte du pays de Caux, hein, la côte d'Étretat, que je connais un petit peu. Et puis peut-être que, parce que je ne suis pas un spécialiste du genre, je crois que j'avais un petit peu envie de me frotter à quelque chose d'un peu polardeux, quoi, voilà. Ouais. Mais en sachant que j'en sortirai probablement au cours de l'écriture, disons, quoi.
Ouais.
Mais oui, le début fonctionne un petit peu comme une série Netflix, là, hein, on imagine bien.
Hein. Ah, ça commence comme un trailer, hein.
Voilà, mais j'aime bien, j'ai beaucoup aimé écrire cette partie-là, mais j'ai aimé d'ailleurs l'écrire à la fois pour ce côté un peu suspense, un peu haletant, mais aussi parce que j'avais très envie depuis longtemps d'écrire un peu sur Étretat, prendre la bagnole la nuit avec un corps, enfin tout ça, ça m'inspirait pas mal, quoi. J'avais des images assez, à la fois assez sombres, bien sûr, et puis aussi assez bucoliques finalement, avec les falaises de craie, avec la nuit, avec un père et son fils dans la voiture, enfin j'avais des petites choses comme ça. Un peu ouaté, quoi. Voilà.
Et justement, le père et le fils, là, il n'y a pas de nom, pas de prénom. C'est un choix.
Alors, c'est marrant parce qu'on m'a fait la remarque il y a quelques jours dans une autre rencontre littéraire et je ne m'en étais pas aperçu.
C'est vrai.
mais ce qui veut dire aussi que c'est un choix profond, finalement, ancré en moi. Et je crois que, en fait, quand on m'a posé la question, tout de suite, ma réponse était immédiate et spontanée, absolument pas réfléchie. C'était de dire, mais oui, parce que c'est une question d'universel. C'est un père universel et un enfant universel. Donc, si je les avais appelés Robert et Denis, vous voyez, ça aurait été plus compliqué parce que je crois que le fait d'affecter des noms aux gens, des prénoms, ça les dépasse, ça les déborde, et puis ça les recouvre, je crois, de quelque chose, d'un type de sociologie, disons, quoi. On a un prénom, on a déjà, le lecteur a déjà un visage, parfois une trajectoire, une histoire avec ça, quoi.
Et ouais, là, parce qu'il connaît quelqu'un d'autre qu'à ce prénom-là, et puis voilà.
Oui, et puis parce que chaque prénom est connoté, socialement, nationalement, hein, par pays, etc. Bon. Donc, je voulais un peu, je crois, inconsciemment éviter tout ça, et je voulais donner envie au lecteur de s'intéresser, de s'émouvoir pour ces deux êtres humains, mais comme êtres humains uniquement, sans qu'on puisse les situer. Voilà.
Parfait. Donc le père, c'est un musicien de jazz, un contrebassiste. C'est pas un violent, pas un salaud.
Contrairement
à ce que pourrait laisser penser le début.
Ouais.
Quelle est donc cette nouvelle inouïe dont je parlais en introduction, à laquelle il ne s'attendait pas du tout?
La nouvelle inuit, oui, c'est que 10 ans plus tard, alors qu'il lui donne un petit concert avec son trio dans un club, il reçoit un texto d'une amie qui lui dit que on aurait reconnu donc la femme qu'il a tuée, finalement la mère de son fils.
Bah oui.
Mais on est 10 ans plus tard.
Avouez que c'est une nouvelle inuit quand même.
C'est une nouvelle inouïe qu'il fait un peu trembloter sur sa contrebasse, évidemment. Mais il est obligé de donner le change, puisque cette femme, il a balancé son corps du haut des falaises 10 ans plus tôt, mais personne ne le sait. Elle est portée disparue, comme on dit, quoi. Et donc, il va être obligé de donner le change devant son fils, bien sûr, mais aussi aux yeux du monde, simplement, quoi. Et de faire comme si il fallait partir à la recherche de cette femme qui pourtant était décédée.
Oui, et donc ça va être le début d'un road trip, parce que c'est un thriller au départ,
ouais.
Et ensuite on part sur un voyage initiatique, un voyage de construction.
Oui, de construction et de reconstruction d'ailleurs aussi. Mais j'avais très très envie ça aussi depuis longtemps. Moi j'ai pas de voiture, enfin je n'ai plus de voiture depuis 20 ans, mais j'adore la voiture. J'y connais rien, mais j'adore conduire, et donc j'en loue parfois parce que j'adore sillonner les petites routes de France ou d'ailleurs. Et j'avais vraiment très envie depuis longtemps de faire quelque chose avec la voiture, entendu comme une sorte de huis clos, quoi, d'espace très confiné. Quand on est en voiture, quand on roule comme ça sur des petites routes, on se sent très protégé du monde, à tort évidemment, mais on se sent chez soi, voilà, on met la musique qu'on veut, la température qu'on veut. C'est une bulle, et on est dans un monde où l'individu cherche beaucoup de bulles, hein. De plus en plus on cherche des bulles pour se tranquilliser, s'apaiser et se protéger un peu des affres du monde, on va dire, hein, dans une grande formule. Voilà, c'est là-dedans qu'ils vont se... Alors lui, essayer de construire une relation avec ce fils, à qui il ment évidemment depuis que sa mère est née, sa mère est morte, et de se reconstruire lui parce qu'il vit évidemment avec le sentiment de cette culpabilité d'avoir tué une femme qu'il aimait authentiquement. C'était une mort accidentelle, je rappelle. Donc, est-ce qu'on peut nouer une relation saine avec un gamin auquel on ment en permanence ?
Sur un mensonge, ouais.
Et puis lui, est-ce qu'il est relativement jeune, il a une quarantaine d'années, est-ce qu'il peut imaginer un jour pouvoir pas seulement retrouver une relation féminine ou l'amour, mais simplement reconstruire son être, quoi, en vivant plus ou moins sereinement que cette culpabilité.
Est-ce qu'il peut croire au printemps ? Et donc ils partent en Allemagne, à Mindheim, et là, dans un hôtel, ils rencontrent une jeune fille, Mado.
Oui.
Qui est le titre d'un roman précédent d'ailleurs, qui est bien plus jeune que le père, et il se passe quelque chose d'assez indéfinissable entre les deux, où en même temps Mado, qui est bien plus jeune normalement, est celle qui l'initie au lieu, qui lui montre les choses et qui lui ouvre un peu l'esprit.
Oui. Alors ils seront plus jeunes, je pense qu'elle a une quinzaine d'années de moins que lui à peu près. Mais ce qu'elle sent tout de suite, je pense, c'est la fragilité de cet homme, ses zones d'ombre, quoi. Mais et ça la fascine assez. Elle voit aussi le lien un petit peu, le lien invisible, tacite, qui unit le père et le fils. Elle sent que il y a quelque chose dans ce duo. D'assez beau, d'assez touchant, et puis il se trouve qu'elle tombe amoureuse de cet homme, parce qu'en plus elle a des origines françaises, donc elle vit dans cette toute petite ville de Bavière, là, un peu loin, donc ça, elle se sent pousser des ailes, et puis non, je crois qu'elle se laisse embarquer un peu par cet homme, qui n'a pas forcément a priori de grand sex-appeal, qui n'est pas qui est plutôt un taiseux, mais qui est, je crois, touchant.
Il a le gamin, et le gamin, lui, il tombe amoureux de Mado.
Et le gamin tombe amoureux de Mado, oui. Alors,
ah bah oui,
ça aussi, c'est une interrogation, c'est entre les lignes, j'appuie dessus, mais il y a cette interrogation sur un gamin qui n'a finalement jamais connu sa mère, puisque quand sa mère meurt, lui, il a quelques jours, quelques semaines, disons, il a 2-3 mois. Et est-ce qu'il est en quête ou pas d'une mère de substitution ? Le roman n'y répond pas, d'ailleurs.
Non.
Volontairement, voilà. Je crois que...
Mais c'est très bien comme ça.
Ouais.
Et donc, au cours de ce séjour à Mindheim, il va se passer plein de choses. Il faut le lire. Une autre nouvelle inouïe, c'est que parmi une communauté, il y a quelqu'un qui va confirmer qu'effectivement, il a bien vu quelqu'un qui ressemblait à l'épouse décédée.
Oui.
Et qu'elle est partie en Irlande. Alors là, elle est partie en Irlande sur les traces de Clarisse Normand de la Treille, qui est en fait Sophie Toscan du Plantier, qui a été assassinée en Irlande et qui a eu des grandes énigmes.
Oui. Enfin, énigme d'ailleurs plus ou moins résolue.
Plus ou moins résolue, mais enfin bon. Voilà. Et là, le père rencontre une autre femme, Marie, qui est l'avocat de Clarisse, qui elle est plus âgée.
Oui.
Et on recommence.
Et on recommence. L'homme va tomber fou amoureux de cette femme-là, enfin en tout cas amoureux. Elle est plus mûre que Mado, évidemment. D'abord, elle est plus âgée, elle est avocate. Mais c'est une difficulté, voire une complication pour lui. Parce que comme elle est avocate, il devine qu'entre les lignes, sans rien lui raconter de son histoire, elle devine que ce gars-là quelque chose à se reprocher. Et la question pour lui, qui est tacite, hein, c'est presque écrit comme ça, mais c'est de se demander s'il peut reconstruire une vie avec une femme qui va constamment lui tendre le miroir de sa culpabilité. Parce qu'elle est avocate, elle est habituée à ça, elle connaît les comportements des accusés. Elle sait très bien, voilà. Et donc c'est, il est embarqué dans cette histoire lui aussi, mais il y a quelque chose qui le gêne, quoi.
Mais il y a quelque chose qui m'a frappé dans les âges de ces femmes, justement, c'est que Mado, elle a un peu l'âge qu'avait la mère du gamin quand il l'a rencontré.
Oui, à peu près.
Et Marie, l'avocate, donc, elle a l'âge qu'aurait cette femme-là maintenant.
Oui, je ne sais pas fait, mais vous le soulignez là, oui.
Ouais. Et qu'il est un peu confronté à ce qu'il a raté, à toute la vie qu'il a ratée avec elle, avec ces deux femmes-là, qui n'en font qu'une en fait.
Oui, tout à fait. Je crois que je pense que c'est ce qu'il pèse, c'est ce qui lui pèse tout au long du roman, enfin de cette histoire. C'est que il sent bien qu'il sera toujours incomplet. Il y a quelque chose qu'il ne pourra jamais réparer. Même si, la mort de cette femme était accidentelle. Alors je vais, sans entrer dans des polémiques, ça peut aussi évoquer l'affaire Bertrand Cantat, évidemment.
Évidemment.
Donc j'ai pas jugé de tout ça dans ce roman-là, mais il y a quelque chose de lui qui est cassé avec cette histoire-là, ce drame qu'évidemment il n'a pas cherché. Il trimballe ça sur son dos, quoi. Il en a pour la vie, il le sait. Et bon, comment s'en débrouiller? C'est un empêchement au bonheur pour lui. Il sent que parfois le bonheur avec ces deux jeunes femmes est là, à portée de main, mais il y a toujours quelque chose qui va empêcher, quoi. En tout cas, lui se sent empêché.
Ces deux jeunes femmes ne sont pas des briques pour rebâtir sa vie, pour rebâtir justement ce printemps auquel il faut croire?
Oui, sans doute. Mais je crois qu'il, vous voyez, c'est possible. Il a aussi une quête d'absolu. Il veut retrouver la sérénité. Vous voyez, il veut retrouver
une normalité. Que ça ne soit jamais arrivé.
Il veut retrouver une forme de normalité. Se dire qu'il a payé. Ça fait 10 ans qu'il est dans le mensonge. Qu'il a payé. Il n'a pas fait exprès et tout ça. Et il veut croire au printemps. En effet, il veut croire que voilà, il a une deuxième chance. Mais la deuxième chance, est-ce qu'elle va arriver? Ça, on n'en sait fichtrement rien. Mais lui, en tout cas, vit un empêchement à ce bonheur-là.
Je me trompe peut-être complètement, mais en lisant le roman, j'ai trouvé que le gamin avait des attitudes d'adulte à certains moments.
Oui.
Des attitudes et des réflexions d'adulte. Par contre, le père a un côté puéril de petit garçon qui cherche à se faire consoler, à se faire excuser.
Ouais.
Et c'est marrant cet antagonisme qu'il y a, enfin ce paradoxe qu'il y a entre.
Oui, c'est peut-être un portrait un peu impressionniste des hommes d'aujourd'hui. Enfin, voyez un petit peu, on disait adolescent il n'y a pas si longtemps. C'est ces espèces d'hommes qui savent pas trop grandir, qui n'ont pas forcément envie de grandir, qui ont une certaine nostalgie de ce que fut leur jeunesse ou leur adolescence, et qui à 40 ans se trouvent encore des grands bébés, quoi, et avec une grande immaturité affective. Et ajouter à cela un tempérament comme celui de ces personnages, c'est-à-dire un tempérament un peu taiseux, un peu fatigué de la vie, un peu velléitaire, pas forcément toujours très courageux, mais très sensible. Bon, et bien en contraste, on a ce gamin qui lui a dont l'inconscient peut-être a vécu, se souvient d'un drame, parce qu'il a assisté au drame finalement. Enfin, il a du moins assisté au geste quand son père jette le corps dans la mer. Qu'est-ce qui reste de ça dans l'inconscient d'un gamin? Ce qui fait que le gamin est effectivement beaucoup plus mûr. Alors il a des traits du père, il n'est pas très bavard, mais le fait que les deux soient pas très bavards signifie beaucoup de choses. Alors je ne sais pas quoi, mais
c'est un œil de lynx.
Il l'appelait œil de lynx, en effet. C'est des deux êtres humains qui ont 40 ans d'écart, mais qui sont déjà un peu comme fatigués par le vacarme du monde, voyez. Donc ils savent très bien, ou ils sentent très bien en tout cas, que entre eux, les choses vont se passer comme ça, de manière tacite, avec des clins d'œil, des regards, des silences, et qu'on se comprend très bien comme ça aussi.
Merci beaucoup, Marc Villemain. On peut dire que Il faut croire au printemps, qui est paru aux éditions Joël Losfeld, est un thriller, est un road trip, est un très grand roman d'amour.
C'est gentil comme tout, ça me touche beaucoup, merci.
Vous n'êtes pas d'accord?
C'est pas à moi de le dire, c'est un très grand roman d'amour, mais...
Quand même, il y en a quand même
un roman sensible. Il y en a beaucoup.
Alors, il y a beaucoup de musique. Malheureusement, il y a beaucoup de jazz. C'est des morceaux très, très longs, très durs à passer à la radio.
Et... Encore que le morceau titre, il n'est pas très long, lui. Hein, mais je suis d'accord.
Bah ouais, quand même. Mais par contre, le père et la mère écoutaient de la musique. Quand ils étaient jeunes, ils écoutaient Neil Young. Oui. Heart of Gold. Et on va s'écouter ça.
Eh ben, c'est une bonne idée.
Merci beaucoup, Marc Villemain. Encore du réel avec L'espion qui valait des milliards de David Hoffman qui est paru aux éditions des Sirtes, qui doit être une édition suisse. David Hoffman est journaliste et rédacteur en chef adjoint du Washington Post. C'est vous dire son sérieux et il a même obtenu le prix Pulitzer en 2010. Grand connaisseur de la Russie où il a été chef du bureau à Moscou entre 95 et 2001. Il raconte ici les balbutiements de l'implantation de la toute nouvelle agence, la CIA, en territoire soviétique. Le recrutement d'informateurs et les mille et une ruses nécessaires afin de déjouer la surveillance implacable du KGB. On est encore en plein stalinisme. La police politique et les multiples officines répressives politiques de l'ex-URSS étaient omniprésentes. Tout contact entre un étranger et un citoyen soviétique pouvait entraîner de lourdes peines de prison, voire une disparition rapide et définitive pour ce dernier et l'expulsion pour le premier. L'homme qui valait des milliards est un ingénieur, un chercheur dans une unité d'armement travaillant sur les systèmes de radar embarqués de l'aviation soviétique. De lui-même, il va entrer en contact après bien des péripéties avec un agent américain et proposer des secrets inespéré pour le Pentagone. Son premier bien mobile, c'est la détestation du système, mais il ne refuse pas pour autant l'argent, beaucoup d'argent, en échange de ces informations qui valent 100 voire 1000 fois plus que ce que l'oncle Sam lui offre. Son nom, c'est Adolf Tokachev, et il va ainsi espionner de 1978 à 1985 et dévoiler des plans inestimables qui ont fait gagner un temps considérable aux Américains dans la course aux armements. Ce document se lit vraiment comme un roman, plein de suspense, de coups de théâtre et de trahison, puisque Tokachev sera dénoncé par un aspirant espion jaloux, arrêté et exécuté en 86. Outre son incroyable histoire, tout à fait véridique, on assiste au tout début de la CIA, à la création des boîtes aux lettres mortes, aux stratégies les plus folles pour contourner la surveillance, à des courses-poursuites d'anthologie et aussi à la création d'appareils photo miniatures dignes de James Bond et de bien d'autres ficelles du métier à haut risque. C'est une vraiment une belle découverte. Il n'y a pas de musique, mais on va s'écouter Stas Patchobout, qui est un pionnier de la scène anarcho-punk biélorusse, qui est leader du groupe Déviation. C'est un chantre de la rébellion contre les dictatures. Et son titre, c'est Sprudzinia.
Наши думки летят понад землею, высоко от гетера чистого бруду. Потемкинских весок городков, аграрных заводов, загонов белорусского суду. Мы есть, и этого у нас не отнять, ни волчьими нормами, ни пригонным правом. Мы ты, как у Грея, солнце Барселоны, и ты у технику на хирунку Магадана. Если новодумка про это вам болить, вы настреляли в подъездах и вентили с концертов. Але погляди, хвеются ваши муры, и вам они як не затримать гэта. Мы ёсь, и гэтага у нас не отнять. Мы ёсь, мы ваших дрянных снов причина. Мы ёсь, нас безличны навокал вас. Мы максимально стиснутая спружина. Спружина. Пружина, на-на-на-на-на-на!
Attention, attention, on vient de le voir, les espions sont partout, enfin presque, mais bon, que tout ça ne vous empêche pas de lire en attendant le numéro de juin de Des Polars et des Notes que vous écouterez religieusement sur Radio Évasion, bien évidemment. À très vite, bye bye.
Des Polars et des Notes.